France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
J'accueille ce matin Philippe Bouvard qui publie Mes dernières pensées sont pour vous, un recueil d'aphorismes où la blague se mêle à la gravité et l'occasion de revenir sur une vie exceptionnelle marquée par l'amour du journalisme, mais aussi du music-hall tel qu'on le pratique à la radio ou à la télévision. Bouvard en musique de Mozart à Errol Garner en passant par Michel Arnaud et Gilbert Bécaud. C'est dans quelques minutes, en fin d'émission, second volet des chansons de Daniel Darieux par Martin Penet. Et si malgré tout vous n'êtes pas content, évitez les gros mots contrairement à la marquise.
Madame la marquise a dit, c'est une femme fort sage qui reçoit tous les vendredis tout le gratin du voisinage. Madame la marquise a dit, précisant la présence d'un général de ses amis qui a servi dans la tendance. Madame la marquise a dit, elle ne s'adressant à personne, personne ne l'aurait compris. Pourtant la surprise était bonne. Madame la marquise a dit, une voix tout à fait tranquille, en fermant les yeux à demi, un mot que je vous donne en mille. Madame la marquise a dit, et juste à la seconde ivoire, où monsieur l'abbé fut sorti, à quoi bon choquer le chanoine. Madame la marquise a dit, à tous ceux qui la croyaient prude, ce qu'il est entre nous soit dit, pas du tout dans ses habitudes. Madame la marquise a dit, d'une façon tout à fait comique, tout le monde en fut si surpris que nul ne trouva la réplique. J'en ris encore quand j'y pense. Un mot sur monsieur le marquis qui fit suffoquer l'assistance, mais que l'on ne veut pas relire ici. Qu'on ne peut pas relire ici.
Non, 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 non,
non.
Tout pour plaire cette chanson, d'excellentes paroles de Bernard Dimet, une très jolie musique de Paul Misraki, des interprètes d'exception, les frères Jacques, l'orchestre de Jean-Michel Defay, n'en jetez plus. Et puis c'est un petit coup de chapeau à Paul Touraine, le cadet des frères Jacques qui nous aura quittés il voici bientôt un an. J'ai retrouvé cette chanson dans un excellent ensemble de chansons. Nos grandes vedettes chantent Paul Misraki. C'est une collection qu'on retrouve chez Marianne Mélodie avec les grands auteurs, compositeurs de la chanson française. 48 chansons inoubliable de Paul Misraki que je vous recommande vivement d'écouter.
Étonnez-moi, Benoît. Benoît Dutertre, France Musique.
Et notre invité aujourd'hui, eh bien, je l'avais déjà reçu voici quelques années pour évoquer certains aspects de sa carrière tellement riche, certains de ses amis. Je me rappelle qu'on avait parlé de Jean-Yann, de Philippe Clay, de beaucoup d'autres. Mais il faut au moins deux émissions pour évoquer une telle richesse d'activités journalistiques et aussi de goûts musicaux, car ça n'est pas la moindre des choses chez mon invité donc ce matin, monsieur Philippe Bouvard.
Thank you.
Bonjour Philippe Bouvard.
Bonjour Benoît.
Et c'est-à-dire que vous vous sentez jupitérien ?
Oui, enfin, on a beaucoup abusé de ce terme, surtout depuis quelques mois. Ça a été pendant longtemps une très bonne référence. Une symphonie qui se réclame de Jupiter est forcément une des plus importantes.
Oui, voilà. Mais donc, si vous avez choisi aujourd'hui cette musique, c'est peut-être en référence à l'actualité présidentielle.
Non, pas du tout. C'est le fait que j'ai un goût très marqué pour la musique classique, que j'ai pas souvent l'occasion d'en entendre, sauf à la radio, parce que je ne vais plus au concert depuis quelques années, et que c'est chaque fois une grande joie de se replonger. Par exemple, il y a des week-ends où je m'accorde une journée de brandebourgeois.
Ah, carrément.
Une journée entière.
Ah oui. Mais en général, ça revient beaucoup à Bach et à Mozart, si j'ai bien compris. Hein.
Oui, alors, il y a une explication quasi technique. Je dois beaucoup au contrepoint.
Voilà.
Je le vois beaucoup au contrepoint parce que quand j'étais jeune homme, j'avais des amis qui étaient des champions. Il y en a un d'ailleurs auquel je dois beaucoup, je vais vous dire pourquoi, qui a obtenu le Grand Prix de Rome de composition.
Oui.
Pierre Gabet, et qui a fait ensuite une brillante carrière. Alors, il se trouve que Pierre Gabet, qui était mon copain de jeunesse au Vésinet, avait un père qui était administrateur du Figaro. Et c'est pour ça que votre fils n'est pas muet.
Donc vous pratiquez l'art de la fugue.
Oui, non mais j'ai baigné dans le contrepoint, d'autant que j'avais d'autres copains qui poursuivaient les mêmes études classiques. Et ça m'a donné d'ailleurs envie, je ne sais pas si vous avez pu la réaliser, celle-là, de réentendre quelqu'un qui a fait, plagiat le mot, serait méchant et inexact, des adaptations de thèmes très modernes à la façon de Bach. C'était les playbacks de Jacques Lussier. Il n'a pas fait que Bach, d'ailleurs, je crois qu'il y a un concerto italien de Mendelssohn qui est aussi un petit chef-d'œuvre.
Et puis il y a aussi des détournements de valses de Chopin, des cantes. Il a tout fait, Jacques Lussier. On le salue. Vous êtes allé l'écouter au concert ?
Oui, ils étaient trois. Hein. Il était accompagné par deux excellents musiciens qui étaient Christian Garros et Pierre Michelot.
Et d'ailleurs, vous tombez bien, cher Philippe Bouvard, parce que justement, on va les retrouver tout de suite dans un concert public au Théâtre des Champs-Élysées, ces trois merveilleux musiciens, dans un détournement d'une partita en si bémol. Et c'était donc la partita en si bémol, oui, détournée, on peut dire, hein, par Jacques Lussier. Philippe Bouvard, un enregistrement que vous aimez parmi beaucoup d'autres de ce grand musicien, qui est toujours Jacques Lussier.
Oui, mais j'ai toujours d'ailleurs plusieurs raisons d'aimer un musicien. Là, je l'aime parce qu'il a détourné, mais au sens le plus noble du mot, des rythmes que j'aime bien, et parfois des morceaux entiers et très connus. Et si j'aime Mozart, c'est aussi parce que c'est à la fois le divin Mozart et quelqu'un qui avait le goût des plaisanteries faciles et parfois salaces qui m'ont beaucoup diverti.
Absolument. Alors nous, on se divertit beaucoup, on va revenir à la musique, mais on se divertit beaucoup en lisant « Mes dernières pensées sont pour vous », votre nouveau livre, Philippe Bouvard.
Et le dernier, comme son nom l'indique. Le 65e, quand
oui,
même.
Hein. Oui, c'est vrai, mais on espère, nous, que ce sont seulement vos avant-dernières pensées, comme disait
non,
Eric Satie.
Non, je ne crois pas. Vous savez, je vais avoir dans quelques jours 88 ans. Je peux m'arrêter sans que On m'accuse d'être paresseux.
Alors, en tout cas, on constate d'un livre à l'autre, même si vous avez pratiqué à peu près tous les genres, que vous avez quand même une espèce de prédilection, peut-être pour la forme brève, qui est l'aphorisme. Et ici, vous en donnez de merveilleux, évidemment. Je ne sais pas si ça a été toujours votre genre littéraire préféré chez les grands anciens.
Alors, non, parce que ce serait immodeste de dire que...
Que vous êtes le La Rochefoucauld.
Je fais du La Rochefoucauld ou du Rivarol. Non, simplement, il y a une partie importante de ma vie qui, professionnellement, a été vouée au délayage. Parce qu'il y avait des petites choses qui auraient mérité 3 lignes et mes employeurs me demandaient d'en faire 3 feuillets. Et aujourd'hui, c'est la démarche inverse.
Exactement.
Ça mériterait 3 feuillets et j'en fais 3 lignes, avec l'espoir quand même que cette économie de mots débouchera, parce qu'il y a quand même une ambition derrière tout ça, débouchera sur une formule. Et que cette formule imprégnera plus les mémoires de mes contemporains que tout ce que j'ai pu laisser comme bouquin et qui encombrera davantage les bibliothèques que les mémoires.
Il a fallu attendre l'invention de la télévision pour que les amoureux qui ne s'aiment plus continuent à regarder dans la même direction. Ça, c'est au chapitre Amour,
alors,
qui est l'un des premiers du livre.
Vous remarquez qu'il y a parfois la paraphrase de formules que l'on connaît, qu'on doit à la sagesse populaire ou à des auteurs beaucoup plus illustres et doués qui m'ont précédé.
Vous êtes probablement, Philippe Bouvard, le plus ancien journaliste français en activité aujourd'hui.
Je dois être le doyen en exercice.
Oui.
Encore que, vu ma motricité, le mot exercice me paraît un peu forcé.
Est-ce que vous continuez à gagner en sagesse autant qu'en âge?
Je crois, parce que j'ai beaucoup réfléchi. Et si vous voulez, à travers ce petit bouquin que vous voulez bien évoquer, j'ai dressé ce que j'appellerais le dictionnaire de mes idées reçues et rejetées. Bon, c'est-à-dire je parle de la mort, je parle de l'amour, je parle du sexe, je parle de la politique, et je vais souvent à l'inverse de ce que l'on dit et de ce que moi-même j'ai pu penser jusqu'à avant-hier.
Des formules parfois assez... terrible sur la mort, par exemple, la mort, châtiment suprême des hommes qui n'ont commis d'autres crimes que de vivre.
Oui, enfin, ça c'est presque une lapalissade, oui. Mais je veux dire, je préfère celle où je dis, on en saurait davantage sur la mort si on n'avait pas sur elle que les témoignages des vivants.
Oui, elle est très bien, effectivement. Philippe Bouvard, la mort, c'est quand même un sujet qui revient d'un livre à l'autre. Oui. C'est la quatrième fois que vous y revenez de façon obstinée.
Et alors, j'ai fait un petit bouquin qui a très bien marché contre toute attente, parce que tous les spécialistes s'accordaient à dire, avant qu'il paraisse, que le titre était dissuasif. C'était « Les morts seraient moins tristes s'ils savaient qu'ils pourront encore se tenir les côtes en regardant les vivants ». Ce qui était de la provocation. Mais ce qui était aussi une façon de dire, après François Mitterrand, il y a peut-être quelque chose, mais on ne sait pas quoi.
Vous croyez en Dieu, Philippe Bouvard?
Non, pas du tout.
Vous êtes le fils d'une mère juive et d'un père catholique.
Oui, mais enfin...
Vous auriez pu choisir...
Le père catholique a disparu très tôt avec les bijoux de la mère juive. il est resté un beau-père juif également, que je considère comme mon vrai père. On m'a laissé le choix de la religion, et naturellement, comme chaque fois, j'en ai pas choisi. Et je me suis fait baptiser à 23 ans pour épouser une demoiselle qui, elle, était catholique. Mais enfin, je peux pas dire
que... Et c'était Piem qui était votre parrain?
Oui, c'était
en religion.
Piem, oui, le grand dessinateur Piem, qui a aujourd'hui, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, pas loin de 95 ans. Alors, à l'époque, il ne m'a pas porté sur les fonts baptismaux, parce que j'étais déjà assez lourd. Mais enfin, il m'a apporté un vrai parrainage. Et chaque fois que je l'ai rencontré par la suite, et au Figaro, on se voyait beaucoup, il me disait « J'espère, mon petit, que tu fais bien tes devoirs religieux ».
Philippe Bouvard, on va aujourd'hui évoquer aussi peut-être quelques-uns de ceux qui ont été vos proches. En chanson, j'ai choisi Michel Arnaud qui chante l'île Saint-Louis.
Saint-Louis, la cité. Un soir a rompu ses amarres, elle avait soif de liberté. Avec ses joies, avec ses peines qui s'en allaient au fil de l'eau, on la vit descendre la Seine, elle se prenait pour un bateau. Quand on est une île, on est bien tranquille au cœur de la ville. C'est ce que l'on dit. Mais un jour arrive, en douce on s'esquive, on quitte la rive pour voir du pays. L'île Saint-Louis a de la peine, du pôle sud au pôle nord. L'océan ne vaut pas la Seine, le large ne vaut pas le port. Si l'on a trop de vagues à l'âme, mourir un peu n'est pas partir. Quand on est île à Notre-Dame, on prend le temps de réfléchir. Quand on est une île, on est bien tranquille au cœur de la ville. C'est ce que l'on dit. Pour les îles sages, pas de grands voyages, les livres d'images se font à Paris.
Une magnifique chanson de Léo Ferré chantée par Michel Arnaud, qui était, je crois, une de vos amies assez proche, Philippe Bouvard.
Alors, c'est pas une amie, c'est celle qui a été me chercher dans la presse écrite et qui, la première, a eu l'idée un peu saugrenue de me placer devant une caméra de télévision. Mais c'était plus que ça, je veux dire. Alors, c'était une petite bonne femme qui, comme ça, passait inaperçue et on aurait eu bien tort parce qu'elle avait dans la société française de l'époque une place d'une certaine importance. C'était ce qu'on appelait en d'autres temps une femme d'influence.
Ah oui.
Alors, elle était l'amie des politiques les plus influents et les plus grands artistes. Elle avait un côté un peu intello et elle avait une voix superbe.
Elle avait débuté dans la chanson à Miller Larsouille, qui était un grand haut lieu parisien.
Oui, mais je veux dire qu'elle avait aussi une voix qui la poussait à choisir des chansons de texte.
Oui, c'est ça.
Et ça a un peu disparu.
Elle a d'ailleurs été une de celles qui ont découvert les chansons de Gainsbourg et qui a lancé vraiment Serge Gainsbourg, hein, je crois.
Oui, je peux pas dire qu'elle avait du goût pour ses découvertes parce que ce serait immodeste, mais enfin, elle cherchait à aider les jeunes et je peux dire que, en ce qui me concerne, ça a été réussi.
Et vous êtes resté amis par la suite avec
Michel Arnaud ? Oui, je l'ai vu longtemps. Elle s'était remariée. Elle avait une vie parfois un peu compliquée, très romantique. C'était un personnage, alors je dirais comme il n'y en a plus. Mais je crois que la société, vous savez, secrète des gens dont elle a besoin. S'il n'y a plus de gens aussi exceptionnels que ceux que j'ai pu connaître il y a un demi-siècle ou même trois quarts de siècle, c'est parce que la société n'en a plus besoin.
Ça, c'est une théorie. Voilà, donc vous auriez presque pu faire un aphorisme.
C'est mon idée et je la partage.
On avait évoqué parmi vos autres amis dans une précédente émission, Philippe Bouvard, évidemment Jean-Yann, très proche, évidemment Philippe Clay, que vous avez adoré, qui vous a appelé encore peu avant de mourir, je crois.
Ah oui, ça c'est quelque chose à quoi je pense souvent. Bah, c'est-à-dire que j'étais le plus ancien des amis de Philippe Clay, puisque je dansais en séchant les cours du lycée Condorcet dans la taverne de l'Olympia, qui était située sous le Music Hall, et où il se produisait dans ses premières chansons, dont le mémorable, fabuleux Noyé assassiné. Et puis, bon, les années ont passé, nous nous sommes revus, je l'ai interviewé, on est devenus amis, ce qu'on n'était pas au départ. Et un jour, le téléphone sonne et j'entends « Ici Philippe Clay ». Ah ben, je dis, bonjour Philippe, comment vas-tu? Il m'a dit, je vais mourir dans quelques instants. Et comme t'es mon plus ancien copain, j'ai voulu te dire au revoir. Ben, c'était il y a plus de 10 ans et j'en suis encore bouleversé.
Le médecin lui avait annoncé, il est réellement mort à ce moment-là.
Il est mort une heure plus tard.
Une heure plus tard. Philippe Clay, artiste qu'on doit réécouter parce qu'on le connaît trop mal aujourd'hui. J'ai vu même que, pour ce qui est de la chanson, et pour fermer ce petit chapitre, Philippe Bouvard, vous auriez été attaché de presse chez Barclay.
Oui, alors...
alors ça, c'est un épisode oui, peu, alors, peu connu de votre vie.
Oui, si vous voulez, j'ai toujours été un multicarte.
Oui.
J'ai eu, à ma période de plus grande prospérité, mais aussi de plus grande folie, 17 employeurs simultanés. Bon, c'était beaucoup, hein. J'étais à la fois rédacteur en chef du Figaro, j'avais une émission quotidienne à la télé, une émission quotidienne à la radio, et je publiais un papier dans Match toutes les semaines, et déjà un papier dans le Figaro magazine avec la même périodicité. Bon, c'est vous dire que j'étais complètement fou, mais je veux dire, c'était une espèce de boulimie de travail. C'est-à-dire, je voulais faire ce métier, j'étais pas certain qu'on voudrait bien de moi, on paraissait vouloir de moi, eh bien, on en a peut-être eu trop.
Alors, parmi vos autres choix musicaux du jour, Philippe Bouvard, eh bien, on va retrouver Gilbert Bécaud, qui est aussi un peu méconnu à sa façon aujourd'hui, même si son nom est resté peut-être plus présent que celui de Philippe Clay. On ironise souvent sur Gilbert Bécaud, qui est un grand chanteur.
Alors, c'était pas seulement un grand chanteur, c'était un très, très bon musicien.
Voilà.
Bon, qui avait fait des études classiques. Et j'ai souhaité réentendre, mais ça fait longtemps, que la première audition s'est passée dans la cabane de son jardin à côté de Versailles. J'avais deux amis qui d'ailleurs n'avaient rien à voir avec la musique au départ, qui étaient Louis Amade, qui était le préfet de police en second,
ouais.
Et il y avait Pierre Delanoë qui venait de l'administration fiscale, qui étaient deux poètes qui ensuite ont canté et qui ont laissé des centaines de chefs-d'œuvre. Et ils avaient écrit un livret pour que Gilbert en fasse un opéra. Et j'ai assisté à cette réunion du compositeur et de ses librettistes.
À la naissance de l'opéra d'Aran, hein, c'est le nom de cette œuvre.
Oui. C'était une histoire de pêcheurs d'Islande. Il y avait beaucoup de filets, de vagues. Il y avait un très joli décor.
Mais c'est un vrai opéra, je l'ai réécouté grâce à vous.
Un véritable opéra,
voilà.
Oui, avec une ouverture.
Et avec carrément Georges Prêtre qui dirigeait d'ailleurs. On va écouter un extrait de l'opéra d'Aran.
Il a bougé, il a bougé, il a bougé, sa main a bougé, mourir, sa main a bougé, pour noyer, ressusciter, à genoux, idiote, à genoux, éhonté, pour noyer, ressusciter. Depuis sa venue,
L'opéra d'Arran, c'est la fin du premier tableau. Alors effectivement, c'est important, Philippe Bouvard, vous avez raison de le souligner, de noter que, contrairement à beaucoup d'œuvres de chanteurs, c'est pas une suite de chansons, hein, c'est une vraie composition
de Gilbert Bécaud. C'est une musique ambitieuse, complexe, et il y a beaucoup de percussions sur la partition, et il y avait un chef d'orchestre prestigieux à la baguette.
Hein. Oui, c'était donc Georges Prêtre, et tout ça, c'est ce qui est extraordinaire sur des textes du préfet de police de Paris, qui était poète à 16 heures.
Alors, il me reste de Gilbert, de bons souvenirs, et quelques cravates à pois.
C'est vrai.
Qui était son fétiche de scène. Et souvent, après un gala réussi, il enlevait sa cravate et il me la donnait.
Il vous est resté aussi, de Gilbert Bécaud, si j'ose dire, presque indirectement, le générique des Grosses Têtes, parce que je crois que c'est son fils, Gaïa Bécaud.
C'est Gaïa, oui. Très, très bon musicien, lui aussi, mais c'était pas un générique qui avait été composé pour les Grosses Têtes.
Hein. Ah oui, il a été repris pour l'émission, d'accord. Enfin, c'est important de savoir que c'est quand même le fils de Gilbert Bécaud.
Attendez, il a fait partie de ma vie à telle enseigne que, comme ce sont des réflexes conditionnés qui nous animent, vous le savez, chaque fois qu'on va prendre l'antenne, quand il y avait les premières mesures, j'étais un autre homme et j'étais déjà mobilisé devant mon micro.
Est-il vrai, Philippe Bouvard, que pour vous faire la main, quand vous étiez jeune journaliste, vous vous êtes attaqué un peu gratuitement à Mireille Mathieu, Brigitte Bardot et Lynn Renault?
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, par la suite, je me suis fait pardonner.
Ah bon, les trois ont pardonné?
Brigitte s'est mis un demi-siècle. Elle m'a pardonné le jour où elle a lu dans mon bloc-notes du Figaro magazine. Il y a un demi-siècle que Brigitte Bardot réussit à m'éviter. J'ai beaucoup de considération pour elle. Elle m'a fait savoir que ça l'avait fait sourire et que si je voulais l'inviter aux Grosses Têtes, elle viendrait. Elle est venue et ça a été une des rencontres les plus émouvantes pour moi. D'abord parce que j'avais très peur. C'est une femme d'une remarquable intelligence et qui passe pas grand-chose aux hommes. Ensuite, j'étais un peu coupable. Mais il faut dire que j'avais à l'origine au Figaro un tout-puissant patron de presse qui se nommait Pierre Brisson.
Oui.
Et qui m'avait dit, si vous voulez vous faire connaître, attaquez-vous à des gens beaucoup plus connus que vous. Eh ben, mission accomplie. Alors ensuite, ça a été Lynn Renault. Mais bon, elle aussi, elle m'est tombée dans les bras beaucoup plus tard. Et ça a été Mireille Mathieu. Alors, Mireille Mathieu est très gentille et peut-être que j'ai fait son procès parce que cette gentillesse m'apparaissait suspecte. Et puis un jour, il est arrivé une lettre en provenance de l'Élysée. On me conviait à assister à la cérémonie au cours de laquelle le chef de l'État remettait les insignes de la Légion d'honneur à Mireille Mathieu. Je me suis dit, elle invite toute la presse, je vais en faire partie. Pourquoi pas? Bon. Et puis je suis arrivé, j'étais le seul journaliste. Il y avait la famille et moi.
Ah,
alors,
oui.
Depuis ce jour-là, j'ai un peu révisé mon jugement sur la petite Mireille.
Philippe Bouvard, vous venez de publier donc Mes dernières pensées sont pour vous chez Flammarion. On va y revenir. Tiens, j'en lis encore une sur l'époque. Dans mon enfance, le certificat d'études primaires garantissait qu'on savait lire et écrire. Son équivalent est aujourd'hui le doctorat en lettres.
Oui, mais ça, si vous voulez, c'est le coup de patte de quelqu'un qui regrette d'abord de ne pas avoir décroché son bachot. Ça,
voilà.
ça me poursuit encore aujourd'hui.
Oui.
J'ai failli le passer à 72 ans parce que on m'avait dit il y a une université du troisième âge qui fonctionne à Vincennes. Et j'avais pris l'option français en me disant peut-être que là, même si je suis pas très brillant, j'aurai la moyenne. Et puis, quand j'ai vu la façon dont les questions étaient rédigées, je ne comprenais plus un mot de ce que les examinateurs voulaient et j'y suis jamais allé.
Et à propos des multiples métiers que vous avez faits, Philippe Bouvard, vous dites, alors ça m'a plus surpris, si j'avais été une femme, j'aurais vécu très confortablement de mes charmes.
Oui, j'ajoute, je crois que...
Vous ajoutez...
Il y a un moment que sauf je travaillerai dans les rues mal éclairées.
Voilà, sauf qu'aujourd'hui, je ne trouverai plus de clients que dans les rues mal éclairées. Vous auriez aimé vivre de vos charmes ?
Oui, non, mais parce qu'on est dans une société, on en parle assez aujourd'hui, où tout est faussé par le fait que la moitié de l'humanité a une croupe et un décolleté. Eh ben, j'aurais aimé être de cette moitié-là.
Philippe Bouvard, vous avez fait, vous l'avez dit, mille métiers, chroniqueur, animateur de radio, journaliste de presse écrite, directeur de journal, animateur d'émissions de variété à la télévision également. Est-ce qu'il y a pour vous quelque chose qui est plus important que tout le reste ?
Le plus important, c'est l'écriture.
Oui.
Et quand on se détourne de l'écriture, c'est la parole. Donc, la presse écrite, qui est toujours ma mère nourricière, la radio que je continue...
À pratiquer tous les samedis.
Oui, tous les samedis, et ça fait 51 ans que je suis dans la même station.
Ouais.
Je vous qui souhaite, mon cher Benoît, la même longévité.
Qui s'appelait Radio Luxembourg quand vous avez commencé.
Oui, oui. Non, mais je veux dire, tout ça indique que j'ai choisi mes deux formes d'expression et que je dois beaucoup à la télé, enfin j'ai remboursé un petit peu, mais que ça n'a pas tenu dans mon cœur la place de la presse écrite et de la radio.
Et à propos de radio, nous avons retrouvé ce générique. D'Oswald Andrea, c'était un des génériques d'une émission qui s'appelait RTL Non-Stop.
Oui, et brutalement, c'est notre mon rajeuni de près d'un demi-siècle.
Ah, ça a commencé en 1967, ouais. Donc ouais. Effectivement, c'est assez loin. Et alors, on n'en avait pas parlé lors de notre précédente émission. Philippe Bouvard, je voulais revenir parce que ça a été une émission très importante de 67 à 74, RTL Non-Stop.
Oui, d'abord, cette émission, elle se baladait partout. Un jour, j'étais sur la Seine à bord d'un bateau mouche. Le lendemain ou le surlendemain, j'étais à Rio ou à l'autre bout du monde et j'accueillais tout ce qu'il y avait d'important. Bon, plus quand même, je dois avouer, en chanson qu'en politique.
Voilà, plus en chanson qu'en politique. On a même dit de cette émission que c'était le plus grand music-hall de France. Et c'est peut-être là que vous vous êtes révélé vraiment aussi comme un homme de music-hall, parce qu'au fond, vous en avez fait à la télévision aussi par la suite avec le petit théâtre du music-hall.
Oui, mais j'étais pas un fan de la chanson. J'aime trop la musique symphonique
classique,
et la grande musique.
Ouais.
Mais j'ai la nostalgie des Brassens, des Brel, et pour tout dire, mais ça fait un peu vieux con de tous ceux qui n'ont pas été remplacés.
Voilà, Etrenné, Chevalier et tout cela. Philippe Bouvard, les grosses têtes, ça a commencé en 1977. Vous vous rappelez précisément comment l'idée a jailli ? Comment vous l'avez vendu, si j'ose dire, au patron de l'époque ?
Je pense que j'avais pas beaucoup la voix au chapitre à l'époque, et il a fallu que, comme j'avais fait plutôt mes preuves pendant 10 ans, qu'on me trouve une autre émission, et puis on s'est réunis autour d'une table, et le directeur des variétés de l'époque, il s'appelait Roger Crécher, a dit il faudrait refaire ce que Robert Beauvais, qui était un animateur qui m'avait précédé, appelait une émission de conversation, c'est-à-dire des gens de bonne compagnie et d'une certaine culture qui échangeaient entre eux des choses raffinées et d'autres qui l'étaient beaucoup moins.
Après, il a fallu construire le casting.
Oui, c'est ça qui était important. Le casting, il s'est construit en le modifiant, puis en cooptant des membres qui sont devenus des sociétaires.
Voilà, c'est ça.
Et ça a quand même duré 37 ans, ce qui est beaucoup pour une quotidienne.
Qu'est-ce que vous pensez des grosses têtes aujourd'hui, Philippe Bouvard ?
Je ne sais pas. Vous savez, j'ai tellement de travail que...
Vous l'écoutez peu.
J'écoute de la grande musique, mais je n'écoute pas des petites émissions.
Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui ont continué après avoir été avec vous, avec Laurent Ruquier ?
Ils sont libres, nous n'avions pas de
contrat de mariage
ensemble. Et je me réjouis qu'ils aient été repris comme...
C'est une forme d'hommage aussi.
Quelqu'un qui a divorcé d'une femme n'est pas peu fier si elle trouve un second mari.
Voilà. Alors j'ai ressorti de nos archives une petite pastille des grosses têtes par un homme. Moi, il me faisait beaucoup rire. Je ne sais pas comment vous l'aviez trouvé. C'était Philippe Castelli.
Alors, je l'avais vu dans une publicité pour les slips. Et je m'étais dit, ce type, il est tellement mou qu'on peut lui donner la forme qu'on veut. Et ça m'avait donné l'idée de l'employer. Alors, ça avait fait rigoler tout le monde. Et après, ça continue à faire rigoler, mais pour la bonne cause. Je veux dire, c'était un comique né qui jouait de ses imperfections physiques, d'une voix à nulle autre pareille. Et ça a été, ça a été quelqu'un d'important pour les grosses têtes, alors qu'apparemment, il n'a rien apporté du tout.
C'est un petit garçon qui est dit à
ça. Non, on vous a pas donné l'autorisation.
Je te laisse pas aller comme ça, qu'est-ce que c'est que ça?
Oui.
Il est dérèglé.
On dit, j'ai une histoire.
Mesdames, messieurs, dans le cycle Les grandes histoires françaises, je vais avoir le plaisir.
En mai 82, Philippe Castelli décida de raconter une histoire.
C'est un petit garçon qui dit à sa mère : je sais où je suis né, dans un œuf. Ah, bien. Et qui t'a dit ? La concierge. En me voyant passer tout à l'heure, elle a dit : tiens, voilà le fils de la poule du troisième.
La vie, c'est pas toujours marrant. Parfois, je pense à mes parents. Le jour où ils ont divorcé, quelque chose en moi s'est cassé. Bien sûr, c'était il y a longtemps, j'ai fait ma vie depuis. Pourtant, c'est à cause de pourquoi le taire que je suis resté solitaire. Mais un beau jour, l'ai-je rêvé, j'ai bien cru que c'était arrivé. C'est pas tellement qu'elle était belle, mais sur la plage je n'ai vu qu'elle, Adina, un jour de grand brouillard. Et moi qui ne suis pas beau non plus, je ne sais pourquoi je lui ai plu, Adina, un jour de grand brouillard. Quand son regard a croisé le mien, tout à coup ça m'a fait du bien, Adina, un jour de grand brouillard. J'ai pris sa main, elle n'a rien dit. Ce fut un bel après-midi, Adina, un jour de grand brouillard. Ce n'est plus rien qu'un souvenir de vacances, mais souvent j'y pense. On s'est promené sur les...
Voilà, Philippe Castelli. Bon, il n'aurait pas fait une grande carrière de chanteur,
non,
Philippe Bouvard.
Mais cela dit, il est devenu un comédien important. Il a continué à faire de la publicité. Je suppose qu'il a pu augmenter ses tarifs. Et ensemble, alors, je ne devrais pas le dire, mais en tout cas, ce n'est pas pour m'en vanter, nous avons fait ensemble, hors radio et hors télé, parce qu'il y a eu aussi une déclinaison télé pendant 5 ans sur TF1, presque tous les samedis soirs, nous avons fait des galas sous des chapiteaux géants. Et avec une petite équipe qui était composée de Léon Zitrone, de Gérard Jugnot et de Sim, nous faisions l'enterrement de Castelli.
Bon. Ah bon ?
Et ça a été un très grand moment. Et alors qu'à l'époque, j'étais directeur de France Soir, qui était un grand journal qui tirait à 500 000 exemplaires. Donc, vous voyez, je me suis complètement libéré. C'est-à-dire, il y a des soirs où je voulais être un histrion.
Ah oui. On imagine mal, mais ça devait être bien.
Oui, je le ferai plus aujourd'hui. En tout cas, je ne le faisais à l'époque qu'en changeant de diocèse.
Philippe Bouvard, en tout cas, c'est quoi cette frénésie de travail? Vous l'expliquez comment tous les jours, levé à 5h30 du matin, je ne sais pas si c'est toujours le cas, couché à 21h ou 22h?
Oui, oui. Par l'amour, non pas de mon métier, mais de mes métiers. Je suppose que si je n'avais été qu'un journaliste de presse écrite, je me serais lassé. Mais chaque fois que je pouvais me lasser à l'écriture des articles et qu'on me tendait un micro ou qu'une caméra s'approchait, je découvrais et puis je publiais des livres et puis je faisais des conférences. Et puis je veux dire que j'ai eu tout ce à quoi je n'avais pas droit grâce au journalisme. Alors, c'était ma façon à moi de le remercier.
Il vous arrive de passer une heure sans rien faire ?
Oui, c'est une heure durant laquelle je réfléchis.
Ah bon,
et comme je ne suis pas toujours avec une secrétaire, je me suis fait offrir un petit enregistreur.
Ouais.
Et même la nuit, quand une idée me vient, j'ai tellement peur de la perdre que je la note et que le matin, au réveil, j'essaie de l'exploiter.
C'est plutôt la nuit qu'elles vous viennent, ces formules,
souvent,
ces idées,
souvent.
Ces phrases,
alors,
ces aphorismes.
Pour faire ce livre où il y a 1003 formules,
ouais.
Ce qui est beaucoup, vous savez.
1003 réellement, j'ai pas compté.
Oui, il y a 1003. Ah, oui, on a compté et recompté, bien sûr. On ne s'est pas donné le ridicule de se tromper de chiffres. C'est parce qu'un précédent livre avait réuni, mais il y a une vingtaine d'années, 1001 formules.
Ouais.
Alors j'ai dit, je vais faire un peu mieux, et il y en aura 1003. Et naturellement, ce sont des formules qui n'ont rien à voir d'une décennie à l'autre, sauf que vous remarquerez peut-être que j'ai des idées fixes. Et puis, il y a des sujets comme le sexe ou l'amour, m'inspirent plus que d'autres.
Voilà, et puis quelquefois, vous jouez autour d'un mot. Si j'avais fait ceci, j'aurais, etc.
Ah oui,
sans.
Oui. Et puis alors, j'avais aussi l'envie de paraphraser certains axiomes, certains adages, parce qu'il y a beaucoup de synonymes pour les pensées, qu'on doit à la sagesse populaire. Et il y en a un qui m'est venu à l'esprit et qui ne l'a pas quitté, puisque je suis capable de vous le citer de mémoire, c'est « qui vole un œuf, vole un bœuf, mais ensuite est obligé d'aller au restaurant parce qu'il n'y a pas de recette qui permet d'accommoder l'œuf et le bœuf ensemble.
» J'ai bien aimé aussi dans le genre du « à propos de vol », l'argent qu'on a dans la poche vient toujours d'une autre poche. La malhonnêteté commence quand on s'empare également du pantalon. Vous voulez travailler,
non,
Philippe
alors,
Bouvard, les formules, non, une fois que vous avez
alors,
trouvé l'idée?
Je les relis parce que, bon, il faut resserrer les boulons. Mais ou bien ça vient tout de suite, ou bien ça ne vient jamais. C'est comme l'inspiration, je ne sais plus qui avait dit ça. Je crois que c'est Malraux qui avait dit « ce sont des idées venues d'ailleurs ».
Ouais.
Eh ben, les miennes viennent de je sais pas où.
Et puis ça a beau être vos dernières pensées, je suis sûr que vous en avez déjà noté des nouvelles depuis que le livre est paru.
Non, la source est totalement
tarie. Bon.
Le jour où je me suis aperçu que j'étais à 2003, alors que j'en avais toujours eu 5 ou 10 par jour, il n'y en a plus eu une seule. Je pense que mon organisme avait expulsé tout ce qu'il avait dans ce domaine et qu'il fallait que je passe à un autre sport. Un autre sport, façon de parler, parce que j'en ai jamais fait aucun.
Vous vous en vantez d'ailleurs, comme Churchill. Et vous avez
non, je m'en vante pas. C'est Jean Dutour, mon cher Jean Dutour, qui disait toujours, quand on n'a pas fait de sport à 20 ans, à 80, on a les mêmes contre-performances.
Et voilà, exactement. Jean Dutour, c'est bien sûr quelqu'un qu'on a beaucoup aimé aussi dans Les Grosses Têtes, en dehors de ses livres, je n'en parle pas.
Notre bonne conscience culturelle et académique.
Voilà, jusqu'au bout, par téléphone. Et j'aurais voulu aussi, peut-être qu'on dise un mot de... Parce que sa carrière a été finalement assez parallèle à la vôtre et à celle de votre ami Jean-Yann. C'est Jacques Martin. Comment est-ce qu'il est arrivé dans la bande? Vous le connaissiez depuis toujours?
Non, enfin oui, je le connaissais, bien sûr. Ben, c'est pas dire qu'il était très copain avec Yann. Et puis, il était hyper doué.
Oui, mais, c'est ça. C'était
mais hyper doué et hyper malheureux, je veux dire.
Ah oui?
Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi doué et auquel ses dons procurent aussi peu de plaisir. C'est-à-dire qu'il aurait voulu être Fangio, bon, parce qu'il adorait la conduite automobile. Ouais. Il a été Jacques Martin. Il aurait voulu être Bocuse, parce qu'il réussissait merveilleusement la préparation de certains plats. Il aurait voulu être Caruso.
Oui, voilà,
le chant. Il avait une belle voix. Bien sûr. Il était Jacques Martin. Et ça ne lui a pas suffi.
Et il n'en était pas heureux.
Alors qu'il savait tout faire et qu'il le faisait bien. Il a été très malheureux.
Ça, c'est intéressant et étrange. On va le retrouver tout de suite, Jacques Martin, dans une chanson extraite de sa comédie musicale « Petit Patapon ».
Partons en goguette, allons faire la fête. La nuit, tous les chats sont gris, sont gris, sont gris, sont gris. Partons en goguette. Allons faire la fête, à nous deux les gays, Paris, 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 Paris.
Devant l'opéra, le nec plus ultra, en grand falbala.
Oh là là.
Soupire d'ennui, en pensant qu'il vient pour la Valkyrie.
À profit des enfants du Chili.
Partons en goguette, allons faire la fête. La nuit, tous les chats sont gris, sont gris, sont gris, sont gris. Partons en goguette, allons faire la fête. À nous deux les gays, Paris, 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 Paris.
Grosse. Cowboy, дронсковой, бревенсковой, Троцкой, грабуш, прыцквой, Свецвой, рюса зрой, дырай, Гресковой, Морацмейерштайн, Гробосковой.
Ah, ce que c'est beau. Qu'est-ce que ça veut dire en français?
C'est une vieille légende russe, mais je voudrais pas te la traduire parce que j'ai peur que tu pleures.
Mais non, raconte-moi, je veux savoir.
Tu y tiens?
Ouais.
Je vais essayer.
Avec l'ami pidoise, on ne s'ennuie jamais, vu qu'on est natif d'Arras, Arras, Pas-de-Calais, chef-lieu du Pas-de-Calais.
Jacques Martin à Bobino en 1967 sur une musique de son complice Jean Bedzourov. C'était donc voilà une comédie musicale parmi toutes ces enregistrements qu'il a fait, même s'il aurait préféré être Caruso, vous nous l'avez dit, Philippe Bouvard.
J'ai dirigé pendant 15 ans Bobino, que j'avais racheté, et ça m'a permis de faire travailler des jeunes chanteurs et des moins jeunes, et d'approcher de plus près encore le showbiz. Et puis bon, ça m'a coûté très cher et ça s'est terminé.
Ça
ne
rapporte
un jour.
Jamais les théâtres, ça finit toujours par des ruines, j'ai remarqué dans l'histoire.
Oui, mais c'est une belle expérience à laquelle je pense souvent.
Dans votre dernier livre, Mes dernières pensées sont pour vous, Philippe Bouvard. Oui, il y a ce chapitre, tiens, sur la mort, j'en trouve encore deux phrases que je trouve très, très réussies et très brèves d'ailleurs. Que d'hommes sont morts sans avoir vécu.
Ah oui.
Et puis, alors celle-là, elle est plus dans l'actualité politique. Les maladies sont les primaires de la mort. Hein, elle est bien trouvée aussi.
Oui. Alors, vous voyez, bon, on se dit, ça ne veut pas dire grand-chose. Et puis, si on réfléchit un peu, ça peut résumer provisoirement quelque chose qu'on jugeait jusque-là assez complexe.
Voilà, mais vous terminez le livre en parlant, ça ne pouvait pas être autrement avec vous, Philippe Bouvard, de voitures et de chauffeurs. Parce que la dernière, c'est « La nouvelle société sera en place le jour où il y aura autant de voitures sans chauffeurs qu'il y avait jadis de chauffeurs sans voitures ». Vous vivez toujours avec voiture et chauffeur, vous, Philippe Bouvard ?
Parfois, mais je roule beaucoup moins, je frime beaucoup moins, mais j'ai beaucoup frimé, j'ai beaucoup roulé.
Vous auriez du mal dans le Paris d'Anne Hidalgo ?
Le Paris d'Anne Hidalgo incite à visiter le métro. Ben, c'est ce qu'elle souhaite, hein, d'ailleurs.
Philippe Bouvard, en tout cas, merci d'avoir été avec nous ce matin. Vous continuez à être à la radio tous les samedis. Et au fond, votre tempérament de journaliste, là aussi, reprend le dessus parce que vous adorez continuer à commenter l'actualité politique.
L'actualité très chaude.
Hein. Oui, c'est ça, oui.
Très, très chaude.
C'est un plaisir pour vous, ça.
Ah ben, c'est non seulement un plaisir, mais c'est un luxe, parce que je ne donne que mon avis et lui seul. Dans notre société, il n'y a pas beaucoup de gens à qui on l'offre, ce luxe-là.
C'est vrai, les auditeurs donc vous posent des questions auxquelles vous répondez.
Mais c'est un bâton de maréchal qu'on vous donne à l'usure, à l'ancienneté.
Voilà. On va quand même pas, Philippe Bouvard, se quitter avec la symphonie des adieux. Ce sera un peu triste parce que j'espère bien que vous allez revenir.
Ah, je trouve ça très beau quand les musiciens se lèvent un à un et partent avec leur instrument.
C'est vrai.
C'est quelque chose de poignant.
De poignant, c'est vrai.
Oui. Mais si vous avez choisi autre chose, ça doit être un bon choix.
Bah, ce serait plus du côté de la joie de vivre, bien qu'il soit mort très jeune, Errol Garner.
Oui, alors, j'aime beaucoup le bon jazz.
Vous voulez dire le vrai, celui d'avant ?
Oui, mais ce qui m'avait fasciné chez Errol Garner, d'abord, c'est ses doigts spatulés, des vrais doigts de pianiste de jazz. Et ensuite, mais je ne suis pas musicologue, hein, même si ma mère donnait des leçons de piano, elle ne m'en a jamais donné parce que je ne voulais pas apprendre le solfège. Mais j'ai été frappé par le décalage qu'il y avait entre la main gauche et la main droite.
Oui, c'est ça qui est merveilleux, oui.
C'était sa marque de fabrique.
Sa marque de fabrique. Merci, Philippe Bouvard, de nous avoir livré quelques-unes de vos avant-dernières pensées. On vous attend pour les vraies dernières.
Merci, mon cher Benoît. Thank you.
Bio, un petit chef-d'œuvre d'Errol Garner avec Red Callender à la basse et Hal West à la batterie. C'était un enregistrement de 1947 et c'était pour faire plaisir, bien sûr, à mon invité aujourd'hui, Philippe Bouvard. Je ne puis que vous recommander maintenant de vous précipiter sur son dernier livre. Mes dernières pensées sont sur vous. Pardon, sont pour vous. Mes dernières pensées sont pour vous de Philippe Bouvard qui vient de paraître chez Flammarion.
Mon amour, c'est de la caserne que je t'envoie ce mot d'écrit. J'ai peine à trouver mes esprits comme au temps où j'étais interne. Nous avons de drôles de tournures avec nos casques et nos flingots. On nous a foutu des sabots pour nous faire casser la figure. Ça pourrait aller malgré tout si au moins on avait des sous. Envoie-moi un mandacarte, des journaux, du chocolat, des bretelles, de la tarte, des biscuits et du tabac, un dé, du fil, des aiguilles, du fromage et des boutons, des chaussettes un peu gentilles, ta photo et du savon. La soupe n'est pas vraiment mauvaise, évidemment elle a goût d'eau, mais c'est surtout les haricots qui vous mettent le cœur mal à l'aise. Bien sûr, il y a la cantine, mais le cantinier est un voleur. C'est un mercantilien sans cœur qui vendait 5 francs sa bibine. On a l'estomac douloureux pour qu'on ne soit pas trop malheureux. Envoie-moi un mandacarte, des journaux, du chocolat, des bretelles, de la tarte, des biscuits et du tabac, un dé, du fil, des aiguilles, du fromage et des boutons, des chaussettes un peu gentilles, ta photo et du savon. Et puis il y a la salle de police qu'il nomme le petit château. En hiver il n'y fait pas chaud, on a la peau des doigts qui plissent. Ça me change de tes draps roses, de ton petit corps tout frémissant. C'est pas ton parfum que ça sent sur les planches du machin chose. On est lourd, on a les doigts gourds, mon pauvre amour, y a plus d'amour. Envoie-moi un mandacarte, des journaux, du chocolat, des bretelles, de la tarte, des biscuits et du tabac, un dé, du fil, des aiguilles, du fromage et des boutons, des chaussettes un peu gentilles, ta photo et du savon.
Une très jolie chanson de Lise Gotti, ça s'appelle « Lettre d'un bleu ». Et c'est Lise Gotti qui l'interprète, mais je tiens à préciser que c'est une chanson de Maurice Yvain, le grand compositeur d'opérette pour la musique, et de Clouzot, le grand cinéaste pour les paroles. Ils ont beaucoup travaillé ensemble, Yvain et Clouzot, ils étaient amis. Il y a une merveilleuse chanson d'Yvonne Printemps, « Comme je chante la nuit ». Ils ont même écrit ensemble une opérette dont malheureusement nous n'avons aucune trace. Voilà, je voulais vous la faire écouter parce qu'il y a une grande exposition Clouzot qui commence dans quelques jours à la Cinémathèque et je pense qu'il ne faut pas la rater.
France Musique, Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre.
Et puis avant de retrouver Martin Péné, la seconde partie des chansons de Daniel Darieux, eh bien j'ai mis de côté pour vous quelques extraits d'une opérette, alors qu'il n'y a pas de Maurice Yvain, c'est la génération d'avant, c'est le grand André Messager. On parle toujours de Véronique, de Monsieur Beaucaire, mais peu avant Véronique, Messager a composé un petit bijou qui s'appelle « Les petites Michues », une opérette qui raconte l'histoire de deux sœurs qui passent pour des sœurs jumelles. En fait, une des deux a été adoptée, ça se passe dans le quartier des Halles. C'est charmant, c'est léger comme une opérette, mais c'est aussi musical comme du Messager. Je vous propose d'écouter d'abord ce trio du premier acte, justement, où il y a d'abord les deux petites Michues, Blanche-Marie et Marie-Blanche, qui batifolent un peu avec un charmant militaire, un jeune militaire qui est amoureux de l'une ou l'autre d'entre elles, on ne sait pas très bien. Et puis tout d'un coup, vous allez voir cette grande phrase chantée par Camille Morane, justement, du jeune militaire. Et c'est tellement proche de Fauré et de tous les grands compositeurs de l'époque que là, on sent vraiment la patte de l'opérette très musicale d'André Messager.
Michu, 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 oui, tel est capitaine, le nom qui nous est dévolu.
Michu,
Michu, Michu, et puisqu'il faut qu'on vous l'apprenne, c'est nous les petites Michu.
Michu, Michu,
c'est nous les petites Michu.
Deux sœurs alors,
deux sœurs jumelles,
Le ciel, en vous faisant toutes deux aussi belles, n'a pas voulu sans doute égarer ses faveurs. C'est pour cela, mes demoiselles, qu'il vous a faites sœurs.
Monsieur, monsieur, pas de galanterie.
Et vous, pas de coquetterie, je parle très sincèrement. Il ne pourrait dire vraiment qui de vous est la plus jolie. Elles sont ravissantes, jamais, non, jamais je n'ai vu de jeunes filles plus charmantes que les deux petites michues.
Oui, elles sont ravissantes, le nom qui nous est dévolu. Et puisqu'il faut vous l'avouer, c'est le plus charmant.
Mais en ce cas, il faut que je m'accuse. Je viens d'être fort maladroit et de vous faire un passe-droit, une injustice sans excuse.
Comment ? Comment ?
Entre deux sœurs, il est d'usage, n'est-il pas vrai, qu'on se partage toutes choses équitablement?
Certainement, évidemment.
Donc, puisque tout est commun à chacune, tout à l'heure, en embrassant l'une, devais-je pas embrasser l'autre aussi? C'est le là comme c'est le ci.
C'est fort logique, très véridique.
Eh bien, alors, j'ai des remords.
Ah, mon capitaine, ne soyez pas en peine. Ce baiser-là, ma sœur me le rendra.
Oui, tout s'arrangera comme cela, mon capitaine. Oui, tout s'arrangera comme cela. Ce baiser-là n'est pas perdu.
Rien ne se perd chez les michus. Ce baiser-là n'est pas perdu.
Rien ne se perd chez les michus.
Rien ne se perd chez les michus.
Elles sont ravissantes. Jamais, non, jamais je l'ai vu. Jeune fille plus charmante que les deux petites michues.
Oui, elle est vraie, carré, petite belle. Le nom qui nous est dévolu. Et puis si on la traîne, c'est une charmante.
Michu, 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 michu. Ce sont mes petites michues.
Les petites michues chantées par Liliane Berton, Nadine Renaud et Camille Morane sous la direction de Jules Gressy en 1954. Alors là, il y avait deux jeunes filles et un capitaine, et il y a évidemment un deuxième homme dans l'histoire, c'est Aristide, qui lui est un petit peu simplé et qui se demande, tout comme le capitaine, laquelle des deux il préfère. Voilà comme il va nous le chanter lui-même par la voix de Claude Devos.
Blanche Marie est douce et bonne, c'est un mouton, c'est un agneau. Mais Marie Blanche est si mignonne, avec un si gentil museau. Entre les deux, c'est difficile, parole d'honneur, de faire un choix. Si bien qu'il faudrait, ce que je crois, prendre les deux pour être habile. Celle que je veux, j'en sais rien moi-même. Pour toutes les deux, je fais des vœux, sans savoir laquelle j'aime. Et je serais bien content tout de même si vous me donniez l'une des deux. Car en prenant l'une des deux, je serais sûr d'avoir celle que je veux. Pour être Blanche Marie, mon cœur soupire, je suis rêveur et ténébré. Mais Marie Blanche me fait rire et j'en frissonne jusqu'au chevet. Je voudrais Blanche Marie pour femme, je voudrais Marie Blanche également. Oui, mais voilà, malheureusement, ça se peut pas sans être bigame. Celle que je veux, j'en sais rien moi-même. Pour toutes les deux, je fais des vœux, sans savoir laquelle j'aime. Et je serais bien content tout de même si vous me donniez l'une des deux. car on prend dans l'une des deux. Eh ben, je serais bien sûr d'avoir celle que je veux.
Claude Devos, parfait ténor, léger à la française, comme on en trouve dans les opérettes de l'époque. Alors, je vous passe tout le développement des petites Michues avec ces deux jeunes filles et ces deux jeunes gens. Ce qui va arriver, c'est qu'en réalité, une des deux jeunes filles est la fille d'un couple de maraîchers des Halles, l'autre est la fille d'un général. C'est ce qu'elle va découvrir à la fin du second acte. C'est en fait Marie-Blanche, qui est de son vrai nom Irène des Ifs, comme elle nous l'explique par la voix, la très belle voix de Nadine Renaud.
Qui tranche tout en étant très comme il faut, très comme il faut. Bien vite, on voit de quelle souche sort la fillette que voilà. Et j'ai le nez, les yeux, la bouche du général, mon cher papa. Ce pavanant, comme une souveraine, séduisant les plus rétifs. Sur son passage, avec des airs de reine, elle tient tous les cœurs captifs. Admirez tous, mademoiselle Irène, Irène des Ifs. Admirez tous, mademoiselle Irène des Ifs.
Ce pavanant, comme une souveraine, elle tient tous les cœurs captifs. Admirez tous, mademoiselle Irène, admirez tous, mademoiselle Irène des Ifs.
Le grand mot, j'aurai des succès de salon, j'aurai des succès de salon. Je veux que l'on cite à la ronde mon nom parmi les plus grands noms, les plus grands noms. Je ne suis pas plus mal, je pense, que toutes les beautés du jour, et je prétends que l'on m'encense à la ville comme à la cour. Ce pavanant, comme une souveraine, séduisant les plus rétifs. Sur son passage, avec des airs de reine, elle tient tous les cœurs captifs. Admirez tous, mademoiselle Irène, Irène des Ifs. Admirez tous, mademoiselle Irène des Ifs.
Ce pavanant, comme une souveraine, elle tient tous les cœurs captifs. Admirez tous.
Voilà un troisième petit aperçu de ce bijou musical qui est Les Petites Michues d'André Messager, opérette de 1897. Je vous recommande de redécouvrir cette belle version enregistrée en 1954 par Jules Gressier. Et puis ensuite d'aller redécouvrir, ou plutôt découvrir pour la plupart, cette œuvre qui sera donnée enfin à la scène à l'initiative de la Fondation Bruzane. On pourra notamment la voir à Paris du 19 au 29 juin prochain. Réservez d'ores et déjà vos places pour Les Petites Michues.
Thank you.
Bella, une délicieuse polka mazurka interprétée par l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg sous la direction de Theodor Guschelbauer. Nous avons maintenant rendez-vous, vous le savez, pour la deuxième partie des chansons de Daniel Darieux que Martin Penney était déjà venu nous présenter pour les 100 ans de Daniel Darieux. Il revient malheureusement pour sa disparition. Bonjour Martin.
Bonjour Benoît.
Mais avant de retrouver votre programme Darieux, dites-nous, parce que je préviens les auditeurs qui l'ont peut-être déjà remarqué, que si vous n'êtes plus dans Étonnez-moi Benoît le samedi matin, c'est que vous êtes régulièrement avec votre émission maintenant sur France Musique tous les dimanches soirs. Alors les amateurs de chansons doivent se précipiter. Un mot sur l'émission et puis on attaque notre programme.
Oui, donc ça s'appelle Tour de chant et c'est un rendez-vous avec les personnages de la chanson française du XXe siècle, donc surtout les interprètes, mais aussi parfois les auteurs, les compositeurs.
Beaucoup d'archives
savoureuses issues des trésors de l'INA, leurs chansons, des succès, des raretés, enfin voilà, toute la mémoire de la chanson française.
Martin Penney, Tour de chant, tous les
dimanche à 23h30 jusqu'à minuit. Et bien sûr, pour les couches tôt, on peut la réécouter sur internet, sur le site francemusique.fr.
Et donc Martin, nous avions la semaine dernière évoqué la première partie de la carrière musicale de Darieux. Aujourd'hui, on revient sur le deuxième volet de cette carrière.
Oui, je reprends le fil de sa carrière après la guerre, au tournant de la trentaine, lorsque Daniel Darieux effectue une sorte de mue artistique et personnelle. Elle abandonne le rôle de jeune ingénue de ses débuts pour aborder des rôles de femme à part entière. Et on peut presque parler d'une seconde carrière qui démarre véritablement en 1949 avec « Occupe-toi d'Amélie » de Claude Autant-Lara, dont nous avons entendu une évocation lors de la fin de ma précédente chronique la semaine dernière. Et Henri Decoin l'emploie en 1952 pour un rôle très noir dans La vérité sur Bébé Donge. Mais ce sont surtout les trois films tournés successivement par Max Ophüls qui marqueront une véritable consécration pour Daniel Darieux, La Ronde, Le Plaisir et Madame 2, qui restait un des préférés de notre vedette. On l'a comparé alors à Marlène Dietrich, à Greta Garbo et elle y fredonne une valse composée par Oscar Strauss sur des paroles de Louis Ducreux.
L'amour m'emporte, pourquoi lutter ou résister? L'amour m'apporte tant de plaisir et de désir, clair diamant des lustres. De mon amant. Vite, c'est donc vite à la danse qui m'invite, car l'amour nous quitte si vite que j'en ai peur. Seule, déjà seule, je t'appelle et je pleure.
L'amour m'emporte. Daniel Darieux dans la chanson du film Madame 2, L'amour m'emporte, donc ici dans la version complète de la chanson, telle qu'elle est parue en disque en 1953, Martin Péné.
Oui, et donc à cette époque, ces films donnent bien moins souvent lieu à des chansons que dans les comédies, bien sûr, des années 30 et 40, où c'était presque systématique. Et pourtant, avec l'avènement du disque micro-sillon, Daniel Darieux donne dans sa carrière une part de plus en plus importante à la chanson. Elle est engagée chez Pathé Marconi en 1958 et enregistre pour La Voix de son Maître plusieurs dizaines de titres qui ne sont pas tirés de films, mais qu'elle crée ou bien qu'elle choisit parmi les succès du moment. Et elle est accompagnée d'abord par l'orchestre de Franck Pourcel, et puis durant plusieurs années par celui de Joe Moutet, un jeune musicien très doué qui donne une couleur nettement plus jazz à ses interprétations. Et on se souvient en particulier de Petite Fleur, d'après le fameux thème de Sidney Bechet, qu'elle grave en 1959.
J'ai caché mieux que partout ailleurs au jardin de mon cœur une petite fleur. Cette fleur plus jolie qu'un bouquet, elle garde en secret tous mes rêves d'enfant, l'amour de mes parents et tous ces clairs matins faits d'heureux souvenirs lointains. Quand la vie par moments me trahit, tu restes mon bonheur petit. Sur mes 20 ans, je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que j'ai tant aimé. Dans mon cœur, tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour. Prends ce présent que j'ai toujours gardé, même à 20 ans, je ne l'avais jamais donné. N'aie pas peur, cueille au fond d'un cœur une petite fleur, jamais.
Variété dans les personnages, mais variété aussi dans les activités. Vous enregistrez des disques également.
Oui.
Et chaque fois, nous signalons vos créations. Mais vous avez délaissé ce côté de vos possibilités pendant longtemps. Est-ce qu'il est aussi indiscret de vous demander pourquoi vous avez repris la chanson ?
C'est-à-dire qu'à mon avis, je ne l'ai pas repris, mais je m'en occupe sérieusement.
Sérieusement,
car j'estime que je n'ai jamais chanté. Enfin, je chantonnais un petit peu dans mes films, mais je ne faisais pas ça très sérieusement. Maintenant, j'espère le faire sérieusement, ça m'amuse
et
beaucoup.
Et pensez-vous au musical, à la présentation de vos chansons sur scène ?
Ça, c'est encore un autre métier.
C'est
très difficile et je ne veux pas y venir trop vite. J'en ferai peut-être, mais enfin, pas tout de suite, tout de suite.
Daniel Darieux en décembre 1960 dans cet archive choisi par vous, Martin Péné.
Oui, c'était l'émission avant-première. Et il est vrai que notre vedette aime passer d'un genre à l'autre. Ça, on le sait, entre le cinéma, le théâtre et donc la chanson. Et depuis la Libération, elle partage sa carrière entre... donc surtout le cinéma et le théâtre. Et côté scène, après une reprise en tournée de Léo Cadia de Jean Anouilh en 1949, dans le rôle créé par Yvonne Printemps, Darieux se fait remarquer dans Évangeline d'Henri Bernstein en 1952 aux Ambassadeurs. Et puis c'est la reprise triomphale de Faisons un rêve de Guitry au théâtre Édouard VII en 1957 avec Robert Lamoureux. Et en 1963, elle crée La robe mauve de Valentine de Françoise Sagan. Côté cinéma, je ne peux pas citer tous tes films, ni les nombreux grands acteurs avec qui elle a tourné, mais tout de même, quelques réalisateurs, Julien Duvivier, Marc Allégresse, Sacha Guitry, Claude Chabrol, sans oublier Jacques Demy, bien sûr, qui l'engage en 1967 pour tourner dans Les Demoiselles de Rochefort et fait pour elle une exception en ne la doublant pas au chant. Danielle Darrieux est en effet la seule vraie chanteuse de la distribution et c'est donc bien sa voix que l'on entend dans le film.
C'était une passion secrète. Je n'en ai parlé à personne. Personne n'en a jamais rien su. Pas même mes filles.
Vos filles. Depuis le temps que vous m'en parlez, j'aimerais bien les connaître.
Oh, mais taisez-vous donc. Et alors, cette passion, si je comprends bien, ça a mal tourné.
Mon fiancé avait un nom fort détestable et ce nom m'agaçait plus qu'il n'est supportable. Alors je l'ai quitté sans un mot, sans adieu. Il y aura 10 ans que j'ai brisé ce nœud. Je lui avais appris dans le plus doux moment que j'attendais de lui l'heureux événement qui anoblit la femme et enorgueillit l'homme, car Boubou s'annonçait pauvre petit bonhomme. C'était un beau jeune homme et j'étais demoiselle, bien que j'aie eu déjà par hasard mes jumelles qu'il ne connaissait pas, elles vivaient en pension et ne rentraient jamais le soir à la maison. Quelques années plus tard, par un ami commun, je lui ai fait savoir qu'un riche Mexicain me proposait l'amour au bord du Pacifique. Ce n'était qu'un mensonge amer et pathétique. À présent, je suis seule et je n'ai plus 20 ans. J'ai voulu voir la ville où mon amour d'antan avait connu le jour, je m'y suis installée avec mes souvenirs épars et désolée.
Et vous ne savez pas ce qu'il est devenu?
Non. Il doit être à Paris.
Mais vous devriez aller le retrouver ou faire une enquête.
Ouais. Et comment s'appelait-il ce monstre?
Dame. Simon Dame.
Danielle Darrieux dans Les Demoiselles de Rochefort en 1967.
Oui, alors en dépit de ses nombreux disques de chansons, Darrieux a très peu chanté sur scène. Elle aimait passer du théâtre au cinéma et elle semblait redouter davantage le tour de chant qui, à son avis, demande plus de préparation que le tournage d'un film. Et sa première tentative a eu lieu à l'ancienne Belgique, célèbre établissement de Bruxelles, puis au Casino de Trouville durant l'été 60. Elle projette alors de prolonger l'expérience dans un music hall parisien. Mais finalement, il faudra attendre 8 ans pour qu'elle se produise au cabaret La Tête de l'Art, avenue de l'Opéra, en février 1968. Et à cette occasion, elle explique sa démarche au micro de Nicole Brice sur France Inter.
Danielle Darrieux, il semble qu'aujourd'hui, les jeunes chanteurs ignorent complètement le trac. Mmh, ça vous paraît pas...
Ils ont de la chance. Moi, ça me stupéfie beaucoup parce que je peux pas penser qu'on peut ne pas avoir le trac. Ça, je dois dire, je les envie beaucoup, en tout cas, si c'est vrai.
Et ce premier tour de chant a été terrible pour vous, sur ce plan-là?
Ah oui, vraiment, je crois que j'ai eu la plus grande peur de ma vie parce qu'une générale de théâtre aussi, c'est très impressionnant, mais... on n'est tout de même pas seul. Mais là, il y a cette solitude qui est assez terrifiante.
Sur quel point précis vos efforts ont dû se porter dans ce tour de chant, seul, bien sûr?
D'abord, de maîtriser des mains qui tremblent et les nerfs qui vous nouent la gorge. Et comme quand même, pour chanter, il vaut mieux avoir la gorge dénouée. C'est ça le plus dur.
Mais alors, on peut se demander pourquoi avoir choisi cette difficulté du tour de chant?
Mais parce que je trouve que le tour de chant, pour une comédienne ou un comédien, c'est jouer sa vraie nature. Parce que un rôle de théâtre ou un rôle de cinéma, on est enfermé quand même dans un personnage, qui est une sorte de composition à chaque fois, malgré tout. Et je trouve qu'il y a plus de vérité dans un tour de chant, ne serait-ce que parce que c'est le chanteur ou la chanteuse qui choisit ses chansons. Et bien sûr, moi je n'écris pas mes chansons, mais enfin je les choisis tout de même. Je voulais trouver des chansons qui ne soient pas des chansons de texte sans musique ou des belles musiques sans paroles. Il fallait que je trouve vraiment l'ensemble. C'est même assez difficile de trouver les deux, mais je crois que j'ai 10 jolies chansons que j'aime en tout cas et j'essaye de les faire aimer.
Pendant que les bateaux font l'amour et la guerre avec l'eau qui les broie, pendant que les ruisseaux dans le secret des bois deviennent des rivières.
Hommage à Daniel Darieux avec Martin Pénet, deuxième volet. Merci d'avoir été avec nous, Martin, cette chanson qu'on entend là.
Oui, elle était tirée d'un CD publié par Marianne Elodie il y a quelques mois qui réunit les succès essentiels de Daniel Darieux entre 40 et 67.
La suite dans votre émission Tour de chant tous les dimanches à 23h30.
Oui, ce sera le 5 novembre en ce qui concerne Daniel Darieux.
Merci Martin. S'achève Étonnez-moi Benoît, une émission préparée par Annie Comier avec aujourd'hui à la technique U2 Diego Hack Lopez, Emmanuel Dupuis, réalisation Christine Amado. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, mon invité ce sera Pierre Cardin. Bon week-end à tous sur France Musique, vous avez rendez-vous maintenant avec Philippe Venturini.
À réécouter sur francemusique.fr.